Bienvenue dans un tout nouvel épisode de ce podcast dans lequel j'échange chaque semaine avec une personne inspirante qui est devenue libre selon sa propre définition grâce au code. Aujourd'hui, épisode un peu spécial parce que j'accueille quelqu'un que je connais bien et que vous connaissez sûrement aussi si vous avez déjà fait un tour sur notre plateforme de formation. C'est Vincent qui est le formateur pour tous les parcours web et notamment pour la dernière grosse formation qu'on a sortie sur le React.js. Donc Vincent, avant d'être formateur, il est surtout ingénieur et développeur depuis plus de 10 ans et il a eu plusieurs casquettes ces dernières années. Entre CDI dans une grosse boîte de prestations, travailler pour un des plus grands constructeurs aéronautiques au monde, ou encore freelance pour diverses entreprises plus ou moins grosses, on peut dire que l'expérience, c'est pas ce qui manque à Vincent. Et il va justement nous partager tout ça dans cet épisode. Donc si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en donnant votre avis sur Apple Podcast. Et en attendant, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Vincent. Salut Vincent, merci d'avoir accepté l'invitation pour un nouvel épisode de ce podcast. Ce que je te propose, sans plus attendre, et ce que j'aime bien faire avec les invités, c'est déjà de leur demander comment ils se présenteraient aux auditeurs.
Salut Quentin, ravi d'être ici sur le podcast. Moi je me présenterai en disant que qu'aujourd'hui je suis ingénieur développeur freelance, que je travaille à mon propre compte, pour des clients, principalement des startups, depuis chez moi, depuis mon bureau.
Ok, top. Et donc ça fait combien de temps, on va dire, que tu as ce métier, entre guillemets, actuel? Ça fait combien de temps que tu es plus ou moins sur le même type de quotidien, on va dire?
Alors depuis le début de l'année 2021, je suis vraiment sur ce type d'activité de prestation en freelance, mais c'est depuis le début de l'année 2019 que j'ai quitté mon employeur précédent et que je travaille depuis chez moi.
Ok, donc avant tu étais tu travaillais pour une entreprise, pas en freelance, on va dire un job classique, c'est ça?
Exactement. En fait, moi j'ai été diplômé ingénieur en 2008, donc ça date un peu, ça fait 13 ans déjà. Et de 2008 à début 2019, donc pendant 11 ans, j'ai travaillé pour une grande SS2I, aujourd'hui on dit ESN, qui s'appelle Soprasteria. Donc dans la région toulousaine, et mon client c'était Airbus. Pendant ces 11 années j'ai travaillé pour Airbus, donc dans un grand groupe, contexte grosse entreprise, et je les ai quittés du coup début 2019, où j'ai pendant les 2 années sur lesquelles j'étais couvert par le chômage, j'en ai profité pour expérimenter, pour me former, pour mettre en application certains projets que j'avais dans ma tête depuis longtemps. Et puis depuis ce début d'année 2021 où je ne suis plus couvert par le chômage et qu'il faut que je fasse rentrer un peu plus d'argent, eh bien je me suis mis en mode prestation freelance, puisque c'est beaucoup plus facile de faire rentrer de l'argent par ce biais là.
Ok, top. Donc effectivement on voit que tu as quand même pas mal d'expérience, et j'aimerais revenir un peu sur toute cette période-là qui est quand même assez longue. Alors c'est vrai qu'au final il y a eu une grande partie de cette période-là depuis ton diplôme où c'était assez monotone, dans le sens où voilà, tu avais une seule mission, et après j'en doute pas, hein, qu'il y avait plein d'espèces de soumissions au sein d'Airbus, et on pourra en reparler après. Mais déjà, est-ce que tu peux revenir un peu sur tes études, voire éventuellement sur tes débuts dans le monde de la programmation, parce que c'est pas forcément tes débuts dans le monde de la programmation et tes études ne sont pas forcément la même période, quoi. C'est peut-être pas à ce moment-là que tu as découvert la programmation. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta découverte de ce monde et par la suite sur tes études?
Ouais, alors j'ai découvert la programmation, j'étais en seconde, je me rappelle très bien, dans mon lycée. J'avais vu une petite affichette qui disait qu'il y avait un prof qui se proposait pour faire un cours entre midi et deux, pour ceux qui étaient intéressés, un cours de programmation. Donc à l'époque c'était du Visual Basic, et moi j'ai vu ça. Alors j'y connaissais rien en programmation, mais j'étais dans l'âme très orientée scientifique, tu vois. Pour moi c'était clair que j'allais faire un bac scientifique, etc. J'étais très sur les maths, la physique, donc c'était quand même quelque chose dont j'avais déjà entendu parler et qui me titillait. Et donc je suis allé m'inscrire à ce cours, On était une dizaine, c'était très sympa en plus. Puis c'était vraiment en mode, tu vois, le cours facultatif que tu fais pour le plaisir, il n'y a pas du tout de pression. Donc c'était vraiment super top. Et bah, ce prof, il nous a appris à créer des interfaces graphiques dans lesquelles on faisait des choses très simples. On avait commencé par un convertisseur entre les francs et les euros. Et puis on avait fait une réplique du jeu du dé mineur. Donc c'est des choses très simples. Mais ça m'a vraiment fait un gros déclic. Et je me suis dit, mais j'adore ça, c'est ça que je veux faire. En fait, voilà, j'avais l'impression d'avoir un super pouvoir. Je pouvais créer moi-même mes propres fenêtres. Dire, ici je vais mettre une zone de texte, ici je vais mettre une image. Quand je vais cliquer sur le bouton, ça va faire ça. Et je trouvais que c'était un super moyen de laisser parler sa créativité en fait. Donc de suite j'ai accroché avec ça.
Ouais, carrément. Ok, trop bien. Et donc là, forcément, tu me parles de visuels basiques que moi, je ne connais absolument pas, qui t'a permis de découvrir le monde des interfaces graphiques. Et aujourd'hui, donc, tu es développeur quand même assez orienté web, et on pourra en reparler après. Donc, forcément, quelque chose qui contient toujours des interfaces graphiques. Est-ce que tu as tout de suite su, en fait, que la programmation et le fait d'écrire des lignes de code et d'avoir un résultat, ça te plaisait? Alors ça oui, mais est-ce qu'il y avait tout de suite cet aspect interface graphique, ou est-ce que peut-être que par la suite, durant tes études, ou peut-être un peu dans tes différents jobs, est-ce que tu as eu l'occasion de toucher à des choses beaucoup plus proches de la machine? Donc quand je dis proche de la machine, pour les auditeurs, c'est voilà quelque chose qui contient peut-être moins d'interface graphique, où on va manier directement peut-être la mémoire, voilà, des choses très proches du matériel. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en toucher un peu? Est-ce que ça t'a dégoûté? Ou enfin, comment justement tu vois ces autres branches du développement?
Oui, alors effectivement, ce qui m'a plu au départ, c'était les interfaces graphiques, parce que c'est un peu c'est un peu ce qui fait plaisir au départ quand on commence à gratter la surface de la programmation, de pouvoir construire ses propres interfaces graphiques. Mais après, rapidement aussi, on se met à écrire en Visual Basic, on appelait ça des routines, des fonctions en fait, hein, qui font des traitements en arrière-plan. Et ce qui va plus tard, en fait, se décliner sous ce qu'on appelle le développement back-end. Ça me plaisait aussi. Donc j'ai toujours aimé les deux aspects, même si en premier, c'est l'aspect graphique qui m'a le plus plu. Après, pour répondre à ta question sur le langage plus proche de la machine, ça par contre, c'est un truc qui m'attire pas spécialement. J'en ai fait pendant mes études d'ingénieur. On avait fait ça avec un langage qui s'appelait du VHDL, si je me rappelle bien, et qui consistait à développer des applications de temps réel, voilà, qui sont utilisées. Alors moi, je disais, j'ai beaucoup travaillé pour Airbus, et je sais que justement, chez Airbus, il y en a qui font du VHDL, parce qu'il faut des systèmes temps réel dans les avions. Donc c'est quelque chose qui existe vraiment en production, qui est vraiment utilisé. Mais pour le coup, tous ces aspects assembleur, temps réel, manipuler les bits, les octets, tout ça, très proche de la machine, c'est quelque chose dont je ne suis pas forcément très proche.
Ouais, j'ai connu aussi et je partage ton avis. Ok, top. Et donc, est-ce que. Donc, voilà, donc t'as découvert la programmation en seconde. Après, t'as eu encore 2 petites années pour, on va dire, un peu faire ton choix. Enfin, même plutôt 1 année, parce qu'on choisit assez vite son orientation après le bac. À ce moment-là, t'étais dans quel état d'esprit? Est-ce que tu savais déjà que tu voulais faire des études dans ce domaine-là? D'après ce que j'ai compris, plutôt oui. Mais comment t'as fait ton choix? Est-ce qu'il y a eu un parcours comme ça qui est sorti, qui est sorti par rapport aux autres? Ou est-ce que t'as mis longtemps à choisir? Quelles étaient les différentes possibilités qui se sont présentées à toi après le bac?
Ouais, c'était pas facile de choisir où aller après le bac, parce que c'est vrai que la programmation m'intéressait, mais c'était pas hyper répandu comme cursus à l'époque, et j'étais assez partagé. Je savais pas vraiment comment me projeter dans on va dire, dans les 10 années qui arrivaient, quel métier je voulais faire, etc. Donc j'ai commencé à m'inscrire au départ dans les facs. À Toulouse et à Bordeaux, donc dans lesquels j'avais été reçu, il n'y a pas de problème de toute façon pour rentrer dans les facs. Ensuite, sur le conseil ou ouais, sur le conseil de certains profs, parce qu'il se trouve que, alors c'est pas pour me la raconter, mais il se trouve qu'au lycée, j'étais plutôt parmi les bons élèves. Donc on m'avait un peu encouragé à aller m'inscrire en prépa, donc maths sup, maths spé. Ce que j'ai fait, j'avais été reçu aussi, mais j'avais entendu tellement d'échos sur la prépa. Alors j'espère que je vais pas trop décourager les auditeurs s'il y a des jeunes auditeurs qui t'écoutent. Mais c'est vrai que on a tous entendu ces rumeurs, hein, quand on est en maths sup. Bah on se lève, on fait des maths, on sort plus, on voit plus d'amis, on ouvre même plus ses volets, on n'a plus de week-end, on fait que bosser, que bosser. Et moi, par rapport à mon caractère personnel, à mes émotions, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup. C'est quelque chose avec lequel qui me faisait très peur. Et donc j'ai décidé de creuser une troisième piste, c'était la piste des écoles d'ingénieurs qui prenaient juste après le bac, avec ce qu'on appelle une prépa intégrée. Donc dans le sud-ouest, puisque moi je suis dans le sud-ouest, il y en avait principalement deux. Il y avait l'INSA de Toulouse et il y avait l'ENI à Tarbes. Et donc j'ai regardé un peu les cursus qui étaient proposés dans chacune des deux écoles. J'ai vu qu'à l'INSA, il y avait un cursus qui s'appelait génie informatique. Et donc j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et je me suis inscrit. La sélection était pour entrer à l'INSA. Enfin, il y a une sélection assez forte. Souvent, à mon époque en tout cas, on disait que sans une mention bien au minimum, on ne pouvait pas rentrer. Donc sélection assez forte. Voilà, par chance, j'ai réussi à être pris, donc j'ai fait ce cursus à l'INSA de 5 ans. Après, je peux rentrer un peu plus en détail dans ce cursus, je sais pas si tu as d'autres questions avant ça.
Ouais, tout à fait. Ah bah, alors, donc c'est vrai que pour revenir un peu sur ce choix de cursus, au final, la prépa intégrée, enfin l'école d'ingénieur via une prépa intégrée, c'était clairement le bon. Enfin, c'est vrai que c'est un choix qui paraît quand même très judicieux, dans le sens où, en fonction de ton caractère, voilà, tu chantes la prépa et surtout, tu savais ce que tu voulais. C'est vrai que moi personnellement j'ai fait une prépa donc non intégrée avec tous ces clichés qui ne sont pas forcément que des clichés, hein. Il y a des choses vraies, il faut l'avouer, mais très très bonne expérience, hein. J'en garde vraiment de très bons souvenirs même si c'était très difficile. Mais enfin moi personnellement je me suis lancé dans cette voie parce que je savais pas exactement quoi faire après. Et c'est vrai que si j'avais su exactement que je veux faire de l'info ou de la chimie ou de l'électronique embarquée, peut-être que je me serais tourné comme toi vers une école avec une prépa intégrée, quoi. Ok. Et donc, donc tu rentres à l'INSA pendant 5 ans. Comment se sont passées ces 5 années? Donc, je sais que les 2 années, donc les 2 premières années, sont assez généralistes, il me semble, dans toutes les prépas intégrées, parce que justement, ça reste une prépa. Et comment tu as vécu ces 2 premières années et aussi la phase de 3 ans où là on est vraiment, entre guillemets, dans l'école d'ingénieur?
Ouais. Alors, juste avant que je rentre à l'INSA, ils étaient effectivement encore sur ce modèle de un peu calqué sur la prépa, avec 2 années de prépa intégrée et ensuite 3 années plus classiques. Mais au moment où je suis rentré, ils ont mis en place un nouveau cursus. Ils ont réduit ce qu'ils appellent la prépa instant. Enfin, c'est les étudiants qui appellent ça, eux ils l'appellent même pas comme ça, hein. On ne dit pas qu'il y a une prépa intégrée, mais il y a en tout cas uniquement la première année qui est vraiment généraliste et qui se veut un peu identique à une prépa, même si au niveau du rythme, je pense que c'est vraiment beaucoup plus cool qu'une prépa, par rapport aux clichés que je mentionnais précédemment, à l'INSA c'est pas du tout comme ça qu'on le vit, c'est beaucoup plus cool, et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans ce genre d'école-là, parce que sinon ça me faisait peur, et donc une année vraiment généraliste, qui était finalement l'année la plus difficile à réussir sur le cursus entier. Ça s'est plutôt bien passé, hein, honnêtement. Je l'ai plutôt bien vécu. La vie dans le campus, excellent, donc super expérience. Ensuite, on a 2 années de pré-spécialisation. Donc là, finalement, il y a 4 grands blocs au choix. Je ne sais pas si je vais être capable de me rappeler de tous, mais en gros, il y a le bloc pour ceux qui sont plus SVT chimie, il y a le bloc pour ceux qui sont plutôt maths, physique fondamentale, il y a ceux qui sont plutôt électronique, informatique, et puis je ne sais pas si j'en ai dit 4, mais en gros, il y a des gros blocs comme ça. qui sont des pré-spécialisations. Et derrière, on a 2 années de spécialisation où là, ben, on prend uniquement, c'est l'équivalent d'une seule matière, on va dire, si on parle en termes scolaires. Et en l'occurrence, moi, j'ai pris génie informatique. Et donc là, vraiment, pendant 2 ans, ben, on n'a que des cours liés à l'informatique, mais de manière assez large. Hein. On a des cours sur l'écriture de cahiers des charges, par exemple. Comment on écrit le cahier des charges d'un produit informatique, jusqu'à, comme je disais tout à l'heure, écrire du VHDL pour faire des simulateurs en temps réel. Donc c'est assez large.
Ok. Et donc, comment tu as vécu alors, donc, d'après ce que tu nous dis, la première année, c'était, tu l'as assez bien vécu. Est-ce qu'il y a eu un peu cet esprit de concours, un peu de concurrence ou de classement? Je sais que c'est quelque chose qui a... quand même pas, qu'on retrouve quand même pas mal dans les prépas, mais tout en faisant en sorte que ça reste bienveillant. Est-ce que tu as ressenti un peu cet esprit concours, classement?
Non, je ne l'ai pas ressenti. Et justement, moi, j'ai oublié de le mentionner quand je parlais des choses qui me faisaient peur sur la prépa. Il y avait cet aspect-là. C'est vrai que quand on sort de prépa, il y a tant de places pour l'école d'ingénieurs et c'est uniquement tant d'élèves qui vont réussir à prendre ces places. Donc chaque personne qui passe devant nous, ben, nous prend une place finalement. À l'INSA, c'était pas comme ça. On est tous dans le même bateau et finalement, qu'il y ait 30 élèves dans la classe ou 35 qui réussissent à réunir les critères pour passer à l'année suivante, eh bien, on va tous passer dans l'année suivante. Voilà, peu importe qu'il y en ait 30, 40 ou 50 devant nous, si moi j'ai les critères, eh bien, je sais que je vais passer. Donc il n'y a pas cet esprit de compétition. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal apprécié aussi.
Ok, top. Et deuxième question par rapport à ça, est-ce que le fait que la première année soit assez généraliste et peut-être aussi un peu la deuxième, voire également un peu la troisième, est-ce que ça t'a frustré? Tu nous dis par exemple que tu avais des cours de VHDL, donc un peu plus embarqué, donc a priori des choses qui t'intéressent un peu moins. Est-ce que ça t'a frustré de devoir apprendre plein de choses en même temps? Et déjà, est-ce que selon toi, il y a eu seulement une petite partie des cours qui t'intéressait? Ou est-ce que tout t'intéressait? Et est-ce que si jamais seulement une petite partie des cours t'intéressait, est-ce que le reste était vraiment un poids pour toi? Ou c'était vraiment, ok, pendant 5 ans, j'apprends plein de choses, c'est le kiff total, et puis on va essayer d'acquérir un maximum de connaissances?
Ouais, je l'ai vraiment pris du bon côté. Je suis assez curieux de manière générale de tout ce qui tourne autour du monde scientifique. Donc ça m'a pas dérangé en école d'ingénieur de creuser des choses en chimie, en physique, en thermodynamique. C'est des choses que j'ai trouvées super intéressantes. Je savais très bien que je voudrais pas y faire ma carrière. Mais voilà, j'étais content de savoir... c'est quoi le spin d'un électron, comment on calcule la vitesse d'un fluide en fonction de tel ou tel truc. J'ai trouvé ça hyper intéressant, même si voilà, il y a des choses, on n'est pas fait pour ça. Moi, je me rappelle, par exemple, en thermodynamique, je galérais vraiment, c'était vraiment pas facile, mais n'empêche que voilà, j'ai réussi à prendre les choses plutôt du bon côté, en me disant, bah, tout ça, c'est du bagage qui pourra éventuellement me servir, que ce soit dans ma culture ou tout simplement parce que ça m'intéresse, mais je sais très bien que je vais finir sur la branche informatique et qu'au moment venu, on fera que de l'info et que ça sera top.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait peut-être ça aussi, comme il n'y avait pas cette barrière au bout de 2 ans qu'on a entre... Enfin, cette barrière, cet obstacle à franchir qu'il y a au bout de 2 ans quand on fait une prépa générale, qui est donc le concours. C'est vrai que du coup, comme tu n'avais pas ce concours à la fin, tu t'es dit, bon, je vais aller apprendre des compétences. Je sais pertinemment que j'en aurai plus ou très peu besoin par la suite parce que je vais me spécialiser dans tel ou tel domaine. Donc la seule pression, on va dire, entre guillemets, c'était juste les partiels à la fin du semestre ou à la fin de l'année. Et après, tu savais pertinemment que, ok, bah, si tu ne maîtrises pas tout, ce n'est pas très grave tant que tu as les bases qui te permettent d'avoir une note minimale à l'examen final, quoi. Ok. Top. Et d'accord, donc du coup, on arrive sur les dernières années de ton école d'ingénieur. Comment tu as vécu la fin de ton école d'ingénieur? Est-ce que tu savais déjà pertinemment où tu allais te retrouver après avoir obtenu ton diplôme? Est-ce que c'était le flou total? Est-ce que tu as paniqué? Enfin, comment vraiment tu as géré cette transition entre les derniers mois et la dernière année d'école d'ingénieur et ton entrée dans le monde du travail. Et déjà, combien de temps a duré cette transition? Parce que peut-être que ça s'est fait sur plusieurs mois.
Ouais. Donc en cinquième année, on n'a que 6 mois de cours. On n'a que le premier semestre et le deuxième semestre est consacré à un stage qui est la plupart du temps un stage de pré-embauche et qui commence de mémoire en février. Donc finalement, voilà, on travaille de septembre à janvier et ensuite on attaque notre stage. Donc comment ça s'est passé? Ben, au début de la cinquième année, on sait qu'il va falloir qu'on commence à chercher notre fameux stage de fin d'études et que probablement il y a de grandes chances que ça débouche sur notre premier emploi. Donc les profs commencent à nous préparer, voilà. Il va falloir faire des CV, des lettres de motivation, commencer à trouver des entreprises, etc. Et puis en parallèle, ils nous disent, on vous propose, on fait ça depuis plusieurs années, on vous propose de participer à des simulations d'entretien. Donc on vous donne un rendez-vous ici dans l'école et on vous fait venir et comme si c'était un entretien d'embauche. Et puis à la fin, on vous dit bah là t'as été bon, là t'as pas été bon, etc. Donc la plupart des étudiants s'inscrivent, moi y compris, à ces sessions-là. Et puis il se trouve que quelque chose qu'ils nous avaient pas dit, c'est que dans ces sessions d'entretien, d'entraînement, normalement, mais il y avait à la fois des profs qui étaient là effectivement pour nous faire des retours, mais il y avait sur certains créneaux des professionnels qui venaient compléter en fait, puisque les profs n'étaient pas assez nombreux, des professionnels du recrutement de certaines entreprises qui, eux, ils trouvaient leur compte dans le sens où bah, quand ils voyaient un étudiant qui avait l'air plutôt bon, bah, en fait, ils essayaient de le recruter aussi. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, moi, c'est que j'ai fait mon entretien avec une recruteuse de Sopra Steria. Alors, à l'époque, c'était Sopra Group. On n'avait pas fusionné avec Steria encore. Donc, moi, j'arrivais. Pour moi, c'était une simulation. Hein, je savais même pas. J'avais pas trop compris qui c'était, en fait. Et on a fait l'entretien. Et puis, à la fin, elle m'a dit, bah, écoute, elle m'a demandé quel serait mes. Qu'est-ce que j'aimerais faire concrètement? Donc moi j'avais manifesté mon souhait de travailler dans le web. Elle m'a dit, bah, écoute, on a un projet pour Airbus là, qui va faire telle et telle chose. Si ça t'intéresse, on peut te prendre pour ton stage de fin d'études et démarrer en février. Et bon, moi je me suis renseigné sur la boîte, effectivement c'était une grosse boîte. Qui avait. Alors les SS2I, aujourd'hui on dit ESN, n'ont pas forcément bonne presse. Mais Sopra Group était plutôt dans le haut du panier. D'ailleurs, ça s'est confirmé, puisque moi, j'ai passé 11 années super là-bas. Donc, je me suis renseigné, je me suis dit, bah, c'est une super opportunité, le client, c'est Airbus, ça peut permettre d'évoluer par la suite, pourquoi pas de rentrer chez Airbus, etc. Et donc, finalement, je me suis retrouvé là, à faire mon stage dans cette boîte, alors que j'avais pas fait le moindre CV, ni la moindre lettre de motivation pour chercher un emploi. Donc c'était plutôt cool, ça s'est fait de manière plutôt fluide pour le coup. Et voilà comment je me suis retrouvé dans le monde du travail.
Ok, top. Et après, alors, peut-être, donc ça, il peut y avoir plein de facteurs à tout ça. Tu nous disais que, en tout cas, au lycée, tu étais un élève assez doué. Est-ce que ça s'est, enfin, est-ce que c'était toujours le cas par la suite ou au contraire, enfin, je sais que moi, c'était le cas au lycée. Bon, voilà, c'était, j'avais plus ou moins de facilité. Mais forcément, en prépa, on se retrouve avec plein de profils du même type, plein d'élèves qui sont très doués dans leur domaine. Et forcément, bah là, comme on se compare assez facilement en tant qu'être humain, bah, les niveaux sont recalibrés, quoi. Et est-ce que tu avais toujours cette sensation d'être plus ou moins dans le haut de tableau, même s'il n'y avait pas forcément de compétition, durant l'école? Et ce qui peut-être est une façon d'expliquer que cette personne qui t'a recruté avait vraiment senti un potentiel en toi par rapport à peut-être d'autres profils qui étaient moins motivés?
Bah écoute, j'étais plutôt, oui, dans la moitié du haut du tableau, mais effectivement, comme tu dis, quand on rentre dans ce genre d'école, comment dire, il y a beaucoup plus d'élèves de ce niveau-là. Après, pour être totalement transparent, je ne sais pas de quels éléments elle disposait en entretien, je ne sais pas si elle avait les dossiers, je ne sais pas du tout quels éléments elle avait. Donc c'est difficile à expliquer pourquoi elle m'a proposé ça. Je pense tout simplement qu'on était à une époque en 2008, on était en plein boom vraiment, ils cherchaient énormément de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Et c'est pas que je vais me dévaloriser ni quoi que ce soit, mais franchement, elle aurait peut-être pris n'importe qui lui passait sous la main, parce que à cette époque-là, vraiment, ils avaient vraiment beaucoup besoin de main-d'œuvre pour le développement. Et je pense qu'elle a senti que j'étais. Voilà, j'étais un profil plutôt correct, elle a dû me proposer ça, mais peut-être qu'elle aurait proposé ça à n'importe quel autre. Honnêtement, je ne saurais pas te le dire.
D'accord, ok, top. Et donc comment s'est passé? Donc alors, t'as eu effectivement ce premier stage de 6 mois. Déjà, est-ce que t'as senti une différence entre le premier, enfin le stage pendant les 6 mois de stage et ton embauche après? Alors je spoil un peu, mais tu nous as dit que t'as passé 11 ans à travailler pour Airbus, donc je suppose qu'à la fin de ton stage, t'as été embauché. Et donc du coup, comment est-ce que t'as senti une différence entre ton stage et la période après embauche? Ou enfin voilà, comment s'est passé ces premiers mois au sein de Sopra Group, qui maintenant s'appelle Sopra Steria, et surtout en travaillant pour Airbus?
Alors, pour répondre à la première question, aucune différence vraiment entre la période de stage et la période de CDI. Ça a été vraiment une continuité. Il n'y a eu aucune. La seule différence, c'est que j'ai été voir le service RH et j'ai signé un papier pour m'engager en CDI, mais c'est vraiment la seule différence. Sinon, j'ai continué à travailler sur le même projet. Donc, au départ, quand on arrive en tant que stagiaire, il y a une petite partie qui consiste. C'est l'intégration du stagiaire, parce qu'après je l'ai vécu aussi de l'autre côté de la barrière, hein. Moi j'ai accueilli des stagiaires aussi. Il y a une partie qui est l'intégration, où on va déjà accueillir la personne comme il se doit, lui présenter l'équipe, lui présenter la mission à laquelle on a pensé pour elle. Et du coup, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que Airbus était en train de avait un nouveau besoin, donc avait besoin d'un projet. Et on m'a expliqué la partie fonctionnelle de ce projet. On m'a expliqué à quoi ça allait servir, comment ça allait être utilisé. Et donc il y a une personne qui est restée, c'était mon tuteur de stage en fait, hein, qui est resté pas mal de temps avec moi pour m'expliquer un peu tout le contexte de ce projet-là. Donc ça, c'était quelque chose de plutôt agréable. Et ensuite, pendant les premiers mois de travail, il y avait une autre personne, c'était pas mon tuteur de stage officiel, mais finalement c'est celui qui m'a le plus accompagné pendant ce début de mission. C'était le responsable technique du projet, qui lui était vraiment là pour m'accompagner sur les aspects techniques du projet. Et dès que j'avais une question, je me tournais vers lui et puis il m'expliquait comment fonctionnaient les choses.
Et est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce projet sur lequel tu as bossé au début?
Ouais, alors moi j'étais sur une partie, donc le client comme j'ai dit c'était Airbus. Il y a une branche chez Airbus qui s'occupe de tous les documents de maintenance. Donc là par exemple dans ta voiture, je sais pas si t'as une voiture, mais si t'en as une dans ta voiture, dans ta boîte à gants, tu as peut-être manuel d'utilisation qui fait peut-être 300 ou 400 pages. Pour un avion, c'est pareil, sauf que ça fait peut-être 25 000 pages. en fait, il y a des dizaines de manuels différents. Donc, il y a un manuel qui explique effectivement quand j'ai une panne, comment je change la roue d'un avion, si j'ai du kérosène qui fuit, comment je répare la fuite. Ça, c'est un premier type de manuel. Un autre type de manuel, ça va être, je sais pas, par exemple, quelle pièce est interchangeable avec quelle autre pièce, parce que quand on est en panne dans un aéroport, il n'y a peut-être pas toutes les pièces sur place, mais on peut peut-être utiliser une autre à la place. Enfin, il y a plein, plein, plein de manuels qui font des milliers de pages chacun. C'est une documentation colossale à gérer. Et cette documentation, ensuite, est intégrée dans plusieurs logiciels. Qui s'adresse à plusieurs populations différentes. Les populations, ça peut être des pilotes de ligne, ça peut être des mécaniciens, ça peut être des responsables de compagnies aériennes. Chacun a à sa disposition plusieurs outils qui intègrent des éléments de la documentation. Et le projet sur lequel j'ai travaillé à ce moment-là, c'était une espèce de framework d'unification en fait qui venait entre la documentation et les projets. Qui affichait cette documentation, un framework commun de gestion des droits des droits à chaque document et chaque partie de document. Par exemple, Air France, vu qu'Air France nous a acheté, quand je dis nous, je me mets à la place d'Airbus, Air France nous a acheté des A318 à 319, bah du coup, ils ont le droit d'accéder à la doc des A318 à 319, mais ils ont peut-être pas le droit d'accéder à la documentation des A321, etc., etc. Voilà. Parce que les clients d'Airbus, donc moi, mon client, c'était Airbus, qui est fabricant d'avions, et les clients d'Airbus, ce sont les compagnies aériennes, Air France, EasyJet, etc., qui leur achètent des avions.
Ouais, tout à fait. D'accord. Ok, et justement pour ce projet, est-ce que tu avais. Alors, déjà, est-ce que tu. Quand tu t'es lancé sur ce projet, tu avais les compétences nécessaires? Est-ce qu'il y avait vraiment un gap entre ce que tu savais et ce qu'il fallait savoir pour travailler sur ce projet? Voilà, quelles ont été les choses sur lesquelles tu as dû te former au début?
Ouais, il y avait des gaps. Il y avait des gaps. Ce qu'on avait fait en école d'ingénieur et qui m'a énormément servi sur ce projet, c'est le Java. C'était un projet Java, donc on en a beaucoup fait à l'école et du coup je me sentais à l'aise sur cette partie-là. Également le SQL, puisqu'on travaillait avec des bases de données Oracle SQL et ça on l'avait pas mal fait en école, donc je me sentais plutôt à l'aise là-dessus. Mais il y avait quand même des gros gaps, hein, parce que l'utilisation qu'on fait de Java dans des projets d'école et ce qu'on peut faire dans une entreprise comme Airbus, c'est le même langage, mais c'est pas pareil. Quand on est en train de travailler dessus, c'est vraiment pas pareil. Et en l'occurrence, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a l'utilisation de certains frameworks qu'on voit pas forcément en école. Et à juste titre, je pense, puisque tous les 2 ans ou tous les 3 ans, c'est jamais les mêmes frameworks qui sont à la mode. Donc ce qu'on verrait en école serait probablement périmé quand on arrive sur le marché du travail. Donc dans tous les cas, c'est pas forcément une mauvaise chose de ne pas rentrer en détail là-dedans. Mais sur mon exemple, par exemple sur ce projet-là, je me rappelle qu'on travaillait avec un framework qui s'appelait Struts, dont j'avais jamais entendu parler. Et pour accéder à la base de données en SQL, on utilisait un framework qui s'appelait Hibernate, qui en gros fait le lien entre des objets Java et les tables que tu as dans ta base. C'est des choses que j'avais jamais vues, et là pour le coup j'ai vraiment dû être formé par mon collègue. Alors quand je dis être formé, c'est vraiment formé sur le tas. On essaye de faire des choses, on galère, on regarde la doc en ligne, on essaye de chercher, puis on appelle son collègue pour débloquer, et puis on continue de chercher, etc. C'est pas je pars 3 jours en formation et puis et puis je reviens et je sais bosser. Non, c'est vraiment sur le tas, dans le dur.
Ok, top. Oui, effectivement, il n'y a pas de tuto comment faire ça de A à Z, parce qu'au final, bah, c'est un peu ton job de trouver comment créer ce système-là, ce logiciel, quoi. Ok.
Ouais, c'est ça. Et puis à l'époque, ça existait beaucoup moins les tutos en ligne pour charger une vidéo YouTube en 360p. Il fallait patienter. Non, ça se faisait beaucoup moins.
Ouais, ok, tout à fait. Et donc ce projet-là, t'as bossé dessus pendant longtemps ou après justement t'as découvert d'autres projets ou peut-être que ce projet-là s'est étendu, ce qui fait qu'au final tu travaillais sur d'autres choses. Enfin, comment s'est passé un peu le déroulé de ces 11 années qui ont suivi pour Airbus?
Alors le déroulé déjà, je vais prendre du plus large vers le plus précis déjà pour donner une vue d'ensemble sur les 11 années. On va dire que pendant 2-3 ans, j'ai vraiment fait du dev pur. Ensuite, de la troisième année à la 5 ou 6e année, je faisais des choses un peu mixtes, c'est-à-dire un peu de dev. Mais aussi un peu de. Par exemple, j'encadrais des stagiaires qui arrivaient, je commençais à avoir la délégation sur certaines responsabilités dans le projet, à avoir un petit pouvoir de décision, puis de plus en plus grand, jusqu'à arriver à la deuxième moitié de ma carrière, où là je suis monté sur des fonctions d'abord de responsable d'application, et ensuite de chef de projet. Et tout ça s'est fait vraiment très progressivement, très graduellement, et même au sein d'une position donnée. Par exemple, si je prends ma position de chef de projet, bah au départ j'étais chef de projet d'un mini projet, c'est-à-dire on était juste trois sur le projet, il n'y avait pas beaucoup de jours à produire, et puis graduellement ça a monté jusqu'à mon dernier projet, au moment où j'ai quitté Sopra, j'étais sur un projet où je gérais 25 ingénieurs et où on produisait 400 jours de travail chaque mois. Donc, et puis sur deux continents, moitié France et moitié Inde. On avait des développeurs indiens aussi qui travaillaient pour nous. Donc ça, c'est voilà, la vision globale, c'est ça, c'est une évolution très progressive. Il y a à aucun moment il y a eu une grosse marche où on m'a mis devant un truc énorme et on m'a dit, ben vas-y, démerde-toi. c'est pour ça que je suis plutôt content de la manière dont ça s'est passé là-bas. J'ai toujours été super bien accompagné. Et ça a été ma volonté, voilà, de, à un moment donné, de passer de l'aspect technique à l'aspect un peu plus managérial. Je voyais ça comme une évolution logique des choses. Ça m'intéressait de voir comment ça fonctionnait du côté management, du côté pilotage, du côté financier. Et j'ai appris énormément de choses sur cet aspect-là, donc je regrette vraiment pas du tout.
Ok, top. D'accord. Et donc comment justement s'est faite cette transition au bout d'un moment, après ces 11 années chez Airbus et chez Sopra, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un déclic, tu commençais à te lasser des missions qui t'étaient proposées. Enfin, pourquoi ce changement assez radical, je pense qu'on peut qualifier ça de radical, pourquoi ce changement entre le monde de l'entreprise et le monde où tu es un peu lancé dans le vide et tu dois te démerder toi-même et monter toi-même ton entreprise au final?
Ouais, c'est ça. J'ai rencontré en bossant à Sopra un mec qui est devenu mon meilleur ami par la suite et qui était tombé sur des vidéos d'un certain Cédric Anissette. je ne sais pas si tu le connais, c'est quelqu'un qui a beaucoup investi dans l'immobilier et qui vend beaucoup de formation en immobilier. Au départ, c'était assez modeste. Ce que Cédric Anissette proposait sur son blog, c'était comment il avait acheté des parkings, puis comment il avait acheté un appartement, etc. Donc c'était vraiment les débuts de Cédric Anissette. Aujourd'hui, il est multimillionnaire, mais à l'époque, c'était vraiment ses débuts. Et ce pote m'avait montré ça, il m'avait dit « Regarde ce qu'il fait ce gars, il investit, ça peut être intéressant, tout ça ». Et puis, on avait commencé effectivement à rentrer un peu dans ce monde-là, à s'intéresser à l'investissement et de manière plus générale à comment c'était possible d'éventuellement devenir un peu plus libre de son temps, de moins dépendre de son revenu salarié. Alors aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas réussi à devenir totalement libre puisque je suis dans une activité freelance. Si je m'arrête de travailler, ben, il n'y a plus de revenus. Donc j'échange toujours mon temps contre de l'argent, mais j'y reviendrai plus tard. Puisque j'ai fait plein de choses pour essayer de construire des systèmes avant ça. Et donc petit à petit, je me suis intéressé à ça. J'ai même commencé à investir dans l'immobilier en 2015. Donc des investissements qui se passent très bien, qui me rapportent toujours des revenus à l'heure où on se parle, 6 ans plus tard. Et donc j'ai commencé à rentrer dans ce milieu des revenus passifs, de l'immobilier, du business, et à beaucoup, beaucoup, beaucoup m'y intéresser. Donc la création d'entreprises aussi, et notamment la vente en ligne et le web marketing, des choses qui m'intéressent énormément. Et j'ai beaucoup de bouquins chez moi de business américain qui parlent de web marketing. C'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant. Et du coup, ça trottait dans un coin de ma tête pendant plusieurs années. Alors tu sais comment c'est, hein, souvent on a des rêves, on a des objectifs et puis c'est un peu idiot parce qu'on les met jamais en application et on se dit toujours plus tard, plus tard, plus tard. Et au final, il s'écoule des semaines, des mois et même des années en fait. Et donc, j'ai pas fait exception à la règle et en fait, j'ai mis plusieurs années à vraiment me dire qu'il faudrait que je me lance. Et j'ai eu un déclic début 2018 parce que j'ai vécu des choses à titre personnel assez fortes. Je ne vais pas rentrer dans ma vie ou faire du drama, mais en fait, en l'espace d'un peu plus d'un mois, début 2018, j'ai perdu mon père du jour au lendemain suite à un AVC foudroyant. Et à peine un mois plus tard, je suis devenu, moi, à mon tour, papa. Donc, c'est-à-dire que quand mon père est mort, ma femme en était à 8 mois de grossesse. Et donc j'ai vécu ces deux événements qui sont probablement les deux événements les plus marquants de ma vie à peu près un mois d'intervalle. Et inconsciemment, je pense que inconsciemment, tout ça m'a fait revoir ma vision de la vie, qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie, quelles sont mes priorités dans la vie, qu'est-ce que je veux dans la vie. Et à titre professionnel, ben, ça, je me suis réveillé un matin, c'était comme une évidence. Ben, je veux plus en fait travailler pour un patron que je connais même pas et qu'on me dise ce que je dois faire et avoir un job stressant, puisque quand on est chef de projet et qu'on a 25 personnes, on a des enjeux assez énormes en face et on est stressé vraiment tous les jours. Je veux plus me dire que en fait j'ai envie d'aller chez le coiffeur, mais j'ai un emploi du temps tellement ouf toute la semaine que et le week-end c'est fermé, donc en fait je vais aller chez le coiffeur dans 3 mois. Enfin, c'est n'importe quoi, on n'a plus un seul moment pour soi et je veux plus de cette vie-là. Donc en fait, je vais partir et avec tout ce que j'ai accumulé comme connaissances dans le web marketing, dans le business ou dans l'immobilier, etc. Eh bien, je vais essayer. Je sais pas quoi, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais essayer de faire un truc pour m'en sortir par moi-même. Et donc j'ai annoncé la nouvelle mi-2018 à mon employeur. Et on s'est arrangé à l'amiable pour un départ début 2019. Donc j'ai fait, je crois que j'ai fait 5 mois de plus. Ouais, ça devait être à la rentrée. J'ai dû faire 5 mois de plus, mais sans, avec beaucoup moins de pression du coup, puisque je savais que j'allais sortir et je savais que j'allais pouvoir peut-être réaliser mes rêves par la suite. Donc ça s'est super bien passé cette sortie. Et puis je tenais à le faire de manière propre, puisque j'ai toujours eu de bonnes relations. Avec ces gens-là. Mais voilà d'où est venu ce changement de vie. C'est à la fois l'intérêt qui a été provoqué par mon pote, et du coup je le remercierai assez jamais pour ça, pour tout ce qui est revenu passif, liberté financière, etc. Et à la fois les événements que j'ai vécu qui m'ont servi de déclic pour dire ok, ça fait 2 ans que tu te dis je vais faire ça plus tard, ben non, stop, maintenant tu le fais maintenant et t'arrêtes d'attendre.
Ouais, tout à fait. Mais c'est hyper intéressant ce que tu nous dis par rapport justement à ces événements. Et on a bien compris en fait que pendant la bonne dizaine d'années qui a suivi l'obtention de ton diplôme, bah, t'étais pas malheureux en fait. Et t'avais vraiment un job qui te passionnait. Et t'allais au taf en étant très content. Et en quelque sorte, c'était un accomplissement. Et c'est juste que au bout d'un moment, il s'est passé des choses dans ta vie qui ont fait que. Bah, ton idéal et ta manière de t'accomplir en fait a changé. Et ça, je pense que c'est intéressant de le comprendre et je le vis plus ou moins, alors bien sûr à une toute autre échelle, hein, attention, mais je le vis plus ou moins aussi moi personnellement actuellement. Et je me rends compte au final que on peut très vite tomber dans des idéalisations en regardant un peu, bah, typiquement, hein, en regardant du contenu sur YouTube, en regardant des personnes qui sont devenues très riches ou très libres ou qui ont tel ou tel mode de vie. On peut très vite les idéaliser en se disant, ah bah en fait c'est ça qu'il faut pour être heureux, il faut créer son entreprise, il faut que l'entreprise ait plusieurs dizaines ou plusieurs centaines d'employés, ou alors il faut bosser en freelance et vivre 6 mois de l'année à Bali. Enfin, on peut très vite tomber comme ça dans l'idéalisation de certains modes de vie, et au final, on va essayer de les poursuivre, et peut-être qu'on les a... Alors, on les atteindra peut-être pas, mais si jamais on les atteint, bah, on peut se retrouver. Ça peut quand même faire un choc en se disant merde, j'ai passé tant d'années de ma vie à essayer de poursuivre cet objectif, alors qu'au final, il me plaît pas. Donc, je pense que c'est important de comprendre, et tu nous le fais un peu comprendre, que. Un certain mode de vie, en fait, n'est pas bon. Il est bon pour quelqu'un à un certain moment de sa vie. Voilà, c'était un peu la conclusion que je voulais avoir là-dessus. Et donc, ok, super, tu te lances. Donc, je suppose que ça s'est fait avec une rupture conventionnelle. Enfin, tu nous as dit que ça s'est fait proprement des deux côtés pour que tu puisses avoir le chômage par la suite. Et donc voilà, après comment t'as géré, je suppose que ça a été une période assez stressante, enfin comment t'as géré, on va dire, le début de ta liberté et surtout la poursuite de ta liberté financière.
Alors quand je me suis retrouvé chez moi libre libre de mon temps, j'avais plusieurs objectifs. Le premier objectif pour moi, c'était, et malheureusement, j'ai pas réussi là-dessus. Le premier objectif, c'était de réussir à créer des systèmes ou des business qui vont me rapporter des revenus passifs, qui vont bosser sans moi. C'est-à-dire que si je pars 2 semaines faire autre chose, eh bien, l'argent continue de rentrer. L'idée derrière ça, c'est pas de devenir riche. La finalité, c'est pas l'argent. La finalité, c'est le temps que cet argent permettrait de dégager. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Le but ultime, c'était être libre de mon temps. C'était pas être riche. Mais pour ça, il faut un moyen, et ce moyen, ça s'appelle l'argent. Et donc, premier objectif, créer des systèmes. Donc, j'en ai créé. Ils me rapportent de l'argent, toujours aujourd'hui, ils m'en rapportent toujours. Mais c'est seulement quelques centaines d'euros et ça ne me suffit pas pour en vivre. Le deuxième objectif, c'était, parce que je suis quand même avant tout passionné par la programmation et c'est ce que j'aime faire, hein. C'est pour ça aussi que j'ai quitté mon entreprise, c'est parce que j'ai voulu non seulement monter mon propre business, mais aussi retourner dans la programmation. Donc moi, mon idéal, ça aurait été de mixer les deux, ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes SaaS, Software as a Service. C'est créer un logiciel qui rende service à plein de gens, que ces gens soient prêts à payer pour ce service et soient heureux de payer pour ce service, parce qu'il y a aussi une notion d'épanouissement. Hein. Si c'est pour être riche en distribuant de la merde aux gens, ça ne m'intéresse pas. Moi, je trouve ça super épanouissant de voir qu'on rend service à des gens. Donc aider les gens, en contrepartie ces gens nous payent pour faire un service et ce service, eh ben, on le développe soi-même avec du Node.js, du React, etc. On se fait plaisir. C'est ça vraiment que je visais. Donc pour moi, la première étape, c'était de me remettre à niveau. Parce que quand on travaille pour un grand groupe comme Airbus, il y a plein d'avantages. On a des process automatisés, donc tout ce qui est DevOps, tout ça, pour moi, ça me parlait déjà. Parce que dans les grands groupes, on est à fond sur ces sujets-là. Par contre, au niveau du choix des technos, dans ces grands groupes, on est souvent sur des technos qui datent de plusieurs années. Pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a une décision, ça passe par 10 000 couches, ça prend 3 ans à prendre une décision, et quand on choisit un langage de programmation, on reste pendant 15 ans sur ce langage. Et du coup, pour moi, l'étape numéro 1, c'était me remettre à niveau sur les nouvelles technos. Donc j'ai fait une espèce d'étude de marché des technos qui existaient en 2019. Et je voulais choisir les technos les plus pertinentes. Donc côté front-end, côté back-end, côté mobile, je ne connaissais pas du tout le mobile. Et côté base de données aussi. Et donc j'ai regardé pas mal de vidéos qui comparaient plusieurs technos. Et du coup j'ai fait mon choix. Je voulais me remettre à niveau, donc côté front-end, j'ai choisi React.js. Côté back-end, j'ai choisi Node.js. Côté mobile, React Native. Et côté base de données, MongoDB, que je connaissais pas du tout. Je connaissais bien SQL, mais pas Mongo. Et du coup, j'ai pris ces 4 technos et je me suis dit, ben, maintenant, tu vas développer des projets avec ces 4 technos et tu vas te faire les dents là-dessus. Et voilà, et du coup j'ai commencé à développer des projets, j'ai profité du temps couvert par le chômage pour me remettre à niveau là-dessus.
Ok,
Donc voilà un peu la stratégie que j'avais au départ.
d'accord, ouais, oui, effectivement, c'est important, je pense, de le préciser que tu avais bien une stratégie. C'est pas, enfin, on peut voir ça comme se lancer dans le vide, et c'est un peu vrai dans certains cas et dans un sens, mais c'est effectivement aussi avoir une stratégie, un plan. Peut-être que tu avais aussi un plan de backup en te disant, si jamais au bout de tant de mois ou tant d'années, j'ai pas réussi je sais pas, voilà, tu avais peut-être des objectifs financiers ou des chiffres, enfin, des choses concrètes. Tu t'étais dit, ok, dans ce cas-là, je retourne à un job où j'ai des solutions, etc., etc. Ok. Et donc, est-ce que voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu des premiers projets que tu as lancés? Tu nous dis que il marche toujours un peu aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu en détail de ces projets-là?
Yes, donc mon premier projet, ça a été dans le domaine de l'immobilier. J'ai créé un projet sous forme de SaaS, donc ce dont je parlais tout à l'heure, donc un logiciel que je vendais sous forme d'abonnement mensuel. Donc c'est une extension de Google Chrome. On l'installe sur son Google Chrome et à partir de là, quand on fait une recherche immobilière dans le bon coin ou dans se loger, Sur chaque résultat d'annonce, on a des petites infos supplémentaires qui apparaissent et qui sont les infos pertinentes pour des investisseurs immobiliers. Alors, je le disais précédemment, j'avais commencé à m'intéresser à l'immobilier. J'étais pas mal rentré dans ce milieu-là, dans des groupes de discussion, d'échange, etc. Donc, ça m'intéressait à titre personnel et aussi en tant qu'entrepreneur, je savais ce dont les investisseurs avaient besoin pour trier les annonces. Et donc, une fois qu'on a installé ce logiciel, on a sur chaque annonce, par exemple, le prix au mètre carré, avec un indicateur rouge, jaune ou vert. On a le montant des charges de copropriété, etc. Donc, on a des indicateurs qui, en un coup d'œil, vont nous dire « Ok, bah là, sur cette page de résultats, j'ai par exemple 40 annonces. En un coup d'œil, je sais que sur ces 40 annonces, les 4 ou 5 qu'il faut absolument que j'aille voir, c'est ces 4 ou 5-là. » Parce que elles apparaissent en vert et que l'outil les a pré-analysées.
D'accord.
Donc ça, c'est un outil que j'ai fait. Il existe toujours, hein, je le vends toujours. Ça s'appelle Trouver la bonne affaire, tout simplement. Et donc j'ai fait un site, trouverlabonneaffaire.com, qui est un site très basique, qui sert juste à présenter une petite vidéo de démo et à s'abonner. Derrière, du coup, ça m'a permis de voir aussi les concepts de paiement. Donc j'ai utilisé Stripe pour encaisser les paiements, la notion de paiement récurrent. Quand il y a une carte bleue qui échoue, bah, comment on réessaie un paiement? C'est plein de choses intéressantes, je trouve, d'un point de vue entrepreneurial, de voir ces aspects-là, plateforme de paiement. Et donc c'est un projet qui, le jour où je l'ai lancé, bah, en fait, je me suis appuyé sur mon audience Facebook. J'ai fait une annonce sur Facebook avec un peu de teasing, tout ça. Et dès le premier jour, j'ai fait 8000 euros de vente. Donc là, j'étais comme un fou. j'ai sauté au plafond. Alors en fait, je proposais deux formules. Une formule abonnement mensuel à 9 euros par mois et une formule abonnement annuel à 90 euros par mois. Donc l'avantage pour ceux qui prenaient l'abonnement annuel, c'est qu'ils payaient l'équivalent de 10 mois pour 12 mois de service en fait. Et donc ça avait plutôt bien marché. La plupart des gens avaient choisi l'abonnement à... annuel à 90 euros et du coup comme j'ai eu pas loin d'une centaine de clients, c'est monté direct à ce chiffre là. Bon, après ce qu'il faut se dire c'est que vu que c'est des abonnements annuels, on touche l'argent une fois et après pendant 12 mois on touche plus, donc il faut bien faire ses calculs. Donc après sur le résiduel, ce qu'on appelle le résiduel, c'est-à-dire le revenu récurrent, que ce soit les abonnements mensuels ou les nouveaux abonnements qui arrivent chaque mois, c'est un projet qui aujourd'hui me rapporte à peu près, on va dire, 400 ou 500 euros par mois. Donc c'est pas ce que je touche moi à titre perso, c'est ce qui va sur le compte de mon entreprise. Donc je vais pas rentrer dans les sujets de fiscalité et de taxes parce que c'est compliqué. Mais équivalent à titre perso, on pourrait dire que ça me rapporte 200-300 euros par mois. Donc c'est pas du tout quelque chose qui me permet de vivre, mais c'est quand même quelque chose que je suis content d'avoir fait. Parce que c'est vraiment un vrai SaaS, certes qui rapporte pas énormément d'argent, mais j'ai mis tout en application de A à Z. Voilà, ça c'était ma première expérience.
Ouais, ce qui est important de noter, c'est que à l'heure actuelle, tu as très peu, voire pas du tout de maintenance sur ce projet-là. Ça te demande très peu de temps.
Ouais, vraiment, vraiment très peu de temps. J'ai vraiment tout automatisé. Et la seule chose où j'ai besoin d'un peu de temps, c'est quand Le Bon Coin change la structure de sa page, puisque ça s'appuie un peu sur du web scraping, donc on va chercher à tel endroit de la page l'info du prix de la surface. Quand il change la page, il faut que je réajuste mon sélecteur CSS pour aller chercher l'info au bon endroit. En moyenne, ça arrive deux fois par an, donc je le corrige en une heure, et puis voilà.
Ok, top. Et donc du coup, tu nous dis que c'est ton premier projet. Il y en a d'autres comme ça qui fonctionnent un peu encore aujourd'hui en passif?
Alors, les seules choses qui fonctionnent un peu en passif, c'est l'aspect formation. Je me suis lancé aussi sur la formation avec toi, entre autres.
Ouais.
donc formation en développement web, formation React, etc. Donc ça, c'est des choses qui tournent un peu en fond aussi. Et après, j'ai fait deux autres projets. Alors, je vais pas m'étendre autant parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup parlé sur le premier. Mais pour dire rapidement, deux autres projets que j'ai développés. Il y en a un premier, c'est une application mobile qui me rapporte quasiment pas d'argent, mais je voulais absolument développer une application mobile parce que je voulais avoir une corde supplémentaire à mon arc. Donc, c'est une application, c'est une sorte de Facebook, copie de Facebook. C'est un réseau social en fait, mais uniquement pour les investisseurs en immobilier. Donc c'est un espace d'échange pour les investisseurs en immobilier. Aujourd'hui, il y a 14 000 inscrits sur ce réseau social. Et donc tous les jours, des gens posent des questions. Si j'achète un appartement 5 pièces, est-ce que et que je veux le découper en 3 studios, quelle démarche il faut faire? Si j'ai de l'amiante dans mes combles, qu'est-ce que je dois faire? Ça peut être tout et n'importe quoi en rapport avec l'investissement immobilier. Et c'est un super projet dans le sens où j'ai des gens tous les jours qui m'écrivent des messages privés, puisque c'est comme un Facebook, du coup il y a aussi un Messenger dans l'appli. Tous les jours, des gens qui m'écrivent « Ouais, merci beaucoup pour ton appli, c'est génial, j'en apprends tous les jours, etc. » Donc en termes financiers, ça ne me rapporte pas. Par contre, en termes, j'ai effectivement ajouté une corde à mon arc pour les applis mobiles. Et puis en termes d'épanouissement, franchement, c'est top. Je vois que je rends service à plein de gens, une communauté tout entière. Donc vraiment content de ce côté-là, d'avoir profité de mon chômage pour déployer ça.
Ouais, tout à fait. Tu parlais d'épanouissement tout à l'heure, on est clairement là-dedans, quoi. Le fait de travailler sur des projets quelconques qui peuvent te ramener un petit peu d'argent et avoir le temps justement pour te former sur des nouvelles technologies et lancer des projets qui vont peut-être pas forcément te rapporter de l'argent, mais qui vont te rapporter ce qu'on cherche au final avant tout quand on essaye d'entreprendre, c'est-à-dire bah voilà, la fierté d'avoir créé quelque chose et quelque chose qui apporte de la valeur aux gens, quoi. Ok.
Ouais, c'est ça. Puis sur les stores, l'App Store et le Play Store, tu vois, j'ai des notes moyennes de 4,7, donc ça fait super plaisir. D'ailleurs, si certains veulent regarder l'application, ça s'appelle le cercle du cash flow. Donc le cash flow en immobilier, c'est ce qui reste dans notre poche après avoir encaissé le loyer, mais été débité des mensualités de crédit, des assurances, etc., etc. Donc j'ai repris ce terme un peu, ce terme du jargon. Ça s'appelle le cercle du cash flow. Et après, si tu veux, il y a une dernière expérience que je pourrais détailler. Je ne sais pas si tu as d'autres questions sur celle-là.
Petite remarque, oui, effectivement, par rapport à cette application et même au site dont tu nous as parlé juste avant. De toute façon, il y aura tous les liens dans la description. Donc, si les gens sont intéressés, ils pourront aller voir ça.
Yes, ok. Et la dernière dont je voulais parler, parce que je trouve que c'est assez instructif aussi, c'est une expérience où je me suis fait tout simplement arnaquer. J'ai travaillé pour une personne aux États-Unis qui voulait développer un logiciel. Et voilà, juste pour dire que tout n'est pas rose, mais que bon, voilà, il faut savoir rebondir et qu'il faut pas s'arrêter. Il faut toujours aller de l'avant. J'ai travaillé pour une personne pour lui développer un projet. Et pour raconter l'histoire en abrégé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une première version. Donc premier devis accepté, ok, la personne me paye, y a pas de souci, je fais le développement, aucun souci de ce côté-là. Ensuite, pas mal d'autres fonctionnalités à développer, donc je fais un devis. On avait convenu d'un paiement 30% au début, 30% au milieu et 40% à la fin. Donc elle me paye les 30%, je démarre. Donc il y avait pas mal de boulot hein, sur ce deuxième lot. Et puis arrivé au milieu du deuxième lot, à peu près au moment où le paiement devait se faire, quand on a abordé ces questions de paiement, cette personne me dit je regarde combien ça me coûte là de faire un devis. Et puis elle me dit je dis pas que tu surchiffres ou que ton tarif est trop cher, je pense que tu es dans les bons prix. C'est juste que je m'aperçois que par rapport au produit final que je veux développer, je vais encore te demander des dizaines de fonctionnalités supplémentaires. Et je suis en train de m'apercevoir que ce produit, en fait, il va me coûter peut-être 50 000 dollars ou 100 000 dollars à développer. Et donc, je te propose quelque chose, c'est qu'au lieu que je continue à te payer, je monte la boîte avec toi, au lieu de la monter tout seul. Et donc, tu fais partie de la boîte, et puis il n'y a plus d'échange d'argent entre nous. Toi, tu développes 100% dessus, moi je suis à 100% dessus pour tout ce qui est marketing, vente, trouver des clients, etc. Et on peut faire comme ça si ça te dit.
Ouais, donc moi j'y réfléchis. Viens travailler gratuitement pour moi.
En fait, elle m'a proposé de m'associer avec elle.
Ouais, tout à fait, mais bon.
Mais okay. Donc moi j'ai réfléchi à l'opportunité. Je me suis dit que finalement les choses que j'avais tentées ou les idées que j'avais eues avait pas forcément fonctionné et que là l'idée me paraissait plutôt convaincante pour le coup. J'en ai pas parlé, mais en gros c'était une plateforme de podcast privé où les gens qui font des podcasts, par exemple les formateurs en ligne, vont pouvoir mettre leur contenu réservé uniquement à leurs abonnés payants. Donc c'est des podcasts privés, voilà, uniquement leurs abonnés payants vont pouvoir y accéder, et nous on facture l'abonnement à ce service. Donc je croyais au projet, et puis j'ai dit, bon allez, go, c'est parti, on fait comme ça. Et donc j'ai bossé, j'ai continué à bosser un mois dessus, 2 mois dessus, et puis au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'en fait j'étais complètement sans filet, sans aucun filet, puisque au tout début du projet, j'avais signé une décharge de... je me rappelle plus du terme, mais en gros, je lui avais cédé tous les droits de propriété, ce qui est normal. Par exemple, moi, quand je travaillais à Sopra pour Airbus, on signait des papiers en disant, tous les logiciels qu'on développe vous appartiennent, à vous, Airbus. Même si c'est nous qui les faisons, ce sont les vôtres. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a pas choqué, je l'ai fait, ce qui est normal, hein. Donc c'est sa propriété. Sauf qu'à partir du moment où elle me payait plus et où on était censé être associés, je travaillais sans rémunération pour du code qui lui appartenait légalement. Et donc, si elle décidait du jour au lendemain de partir avec mon code, bah, en fait, j'aurais pu rien dire du tout. Et donc, au bout d'un moment, au bout de 2 mois à peu près, j'ai profité d'un. Enfin, on devait refaire le projet en termes d'environnement Git. Donc en gros, on a fait un nouveau projet sur Git. Enfin, j'ai créé le nouveau projet sur Git, etc. J'ai créé le nouveau projet. Et puis au moment de lui donner les droits sur Git, je me suis dit que en fait c'était peut-être le moment d'aborder le sujet. Et du coup, je lui ai dit que en gros, moi j'étais sans filet, je me sentais pas du tout en sécurité, et que ce qui me paraîtrait normal, c'est que le temps que l'entreprise soit réellement proclamée, soit actée, puisque cette entreprise, ça prend du temps de la créer,
Ah oui,
hein.
d'accord, parce que c'était toujours pas, t'étais pas
Et non, ça prend
officiellement.
vachement de temps. En plus, ça aurait été une
D'accord.
entreprise créée aux États-Unis. Donc moi, je m'étais renseigné, c'est tout à fait possible, hein, il n'y a pas de souci d'être associé sur une entreprise aux États-Unis. Mais c'était pas encore acté. Donc moi, là, j'avais aucun recours. Donc j'ai dit, ce qui me paraît très logique, c'est que tant que l'entreprise n'est pas créée, ben, je garde la propriété, entre guillemets, sur le code que je produis tant que l'entreprise n'est pas créée, et puis dès qu'elle est créée, ben voilà, je te redonnerai les droits. De toute façon, tu n'as pas besoin du code, hein, puisque toi, tu fais du marketing, tu fais. Voilà. Et puis, ben, elle a pété un plomb, en fait, elle a commencé. Voilà, elle a commencé à m'envoyer des messages pas sympas, à dire que j'étais en train de la voler. Enfin, elle a tout simplement pété un plomb, je ne l'explique pas vraiment, en fait. Donc c'est parti en cacahuète. Et elle a terminé la conversation en disant, bah écoute, moi je vais trouver quelqu'un d'autre, je vais trouver quelqu'un d'autre, je vais te dédommager pour le temps passé, et puis on en reste là. Donc moi, vu la discussion, vu les mots qu'elle avait employés, de toute façon j'avais plus, enfin pour moi tout était brisé, j'avais plus envie de travailler avec quelqu'un comme ça. Donc j'ai dit bah ok, soit, paye-moi pour le temps passé, et puis on en reste là. Sauf qu'en fait, bah, les jours, les semaines, les mois sont passés. Elle reportait, elle disait oui, je te paierai quand, machin. Et en fait, elle m'a jamais payé. Jamais, jamais. Donc moi, je me suis renseigné rapidement avec des avocats, mais il se trouve qu'en tant que Français, pour faire appliquer une sanction aux États-Unis, autant dire que tu as plus de chances de gagner au loto. Parce que aller dire à une juridiction américaine, nous en tant qu'avocat français, on vous dit que cette personne-là doit être condamnée, ils vous disent allez vous faire voir, voilà, ils s'en foutent. Et puis ils sont très procéduriers, donc il faut engager des frais colossaux pour tenter des poursuites. Et tu as toi-même une perte de temps et d'énergie colossale par rapport à ce que tu pourrais faire. On appelle ça le coût d'opportunité. Tout le temps que tu passes à gérer des trucs comme ça, eh ben c'est de l'argent que tu perds sur d'autres choses que tu aurais pu faire à la place. Donc moi, j'avais pas envie de m'engager là-dedans. Et après avoir eu ces premiers échos comme quoi je m'engageais dans une peine perdue d'avance et que j'allais perdre des dizaines d'heures et des dizaines de milliers d'euros en avocat, j'ai décidé tout simplement de tirer un trait sur cette histoire et tout simplement d'en tirer les leçons en me disant bah, que tout simplement si on me proposait de m'associer, eh bien, il fallait que chacun garde un peu sa part de contrôle. En l'occurrence, moi, j'aurais dû garder la part de contrôle sur le code pour pas qu'elle puisse partir avec. Et de manière globale, ben, la confiance, c'est bien, mais il faut pas aller trop loin non plus, et il faut quand même des garde-fous. Donc voilà, je voulais mentionner cette expérience parce que c'est vrai que c'est juste pour dire que voilà, il faut tout le monde aura des revers dans sa vie, et je peux te dire que c'est vraiment dur à encaisser quand tu mets en priorité numéro un dans ta vie, que tu as tout plaqué pour te dire maintenant je veux être libre de mon temps, faire ce que je veux de mon temps, et que tu as une personne qui te vole 2 mois de ta vie, parce que pendant 2 mois j'ai travaillé sur du code pour lequel j'ai gagné aucun argent et avec lequel elle est partie sans me donner quoi que ce soit. Moi, j'estime que j'ai perdu 2 mois de ma vie, donc ça fait vraiment très mal. Je pense que j'en suis pas toujours remis. Mais pour dire que voilà, faut toujours essayer de se dire, bah tant pis, j'ai fait une erreur. J'apprends ce qu'il y a à apprendre de cette leçon, et puis je continue, et surtout pas s'enliser dans des problèmes qui vont nous coûter du temps et de l'argent, et essayer de passer à autre chose.
Voilà. Ouais, tout à fait. Et puis c'est important aussi de comprendre ça et de se dire, bah, c'est un peu dans un sens le prix à payer pour devenir libre. Parce que si, enfin, pour devenir libre, justement, il faut se lancer, il faut créer son entreprise, au contraire de celui qui préfère plutôt un confort au prix d'une partie de sa liberté. Et là, au final, c'est un peu la leçon que tu nous donnes en disant, bah, ouais, devenir libre, c'est pas si simple, mais il faut justement apprendre de ses erreurs et continuer à chercher, par exemple, des missions freelance pour justement acquérir cette liberté. Et donc aujourd'hui, tu as rebondi, tu as des nouveaux clients, si j'ai bien compris, tu bosses toujours en freelance à côté pour d'autres personnes.
Ouais, c'est ça. En fait, cette expérience, c'était ma première expérience en tant que freelance au sens où je développais quelque chose pour quelqu'un d'autre qui me payait pour mon temps, puisque comme j'ai dit auparavant, j'étais sur la création de mon appli mobile, de mon logiciel, etc. Je travaillais pour moi-même. C'était d'ailleurs mon but ultime. Et là, la fin de cette expérience a coïncidé à peu près avec la fin de mon chômage. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, j'avais effectivement un plan B dès le départ, une stratégie dès le départ, en me disant, si ça fonctionne pas, eh ben j'aurai le plan B de proposer mes services en freelance. Donc au lieu de travailler sur mes propres idées, de créer mes propres business, je vais aider les gens qui développent des business ou des startups, et ils vont me payer pour faire du développement. J'avais même un plan C qui était de dire, ben, je sais pas finalement si ça sera facile ou pas de trouver des clients en freelance, et donc mon plan C, ça sera de reprendre un job, puisque on a la chance entre guillemets dans l'informatique d'avoir plus de demandes que d'offres, donc c'est plutôt facile en général de trouver un job, en tout cas c'est la perception que j'en ai, je me trompe peut-être, mais du coup je me disais au pire du pire je retrouverai un job et je suis pas à la rue. Donc là, sur le plan B, faire des prestations freelance, pour le coup ça se passe très très bien. J'utilise des plateformes de... Alors pour la question que peut-être posent certains, comment trouver les clients, moi j'utilise des sites de mise en relation entre des entreprises et des développeurs. Donc par exemple, moi celui qui marche très bien pour moi, c'est Malt. Il y en a un autre qui s'appelle coder.com, mais j'aime moins parce qu'on est en concurrence avec des gens... ça peut être des Indiens, ça peut être des Marocains, etc. Et le problème de cette concurrence-là, bah, c'est qu'ils sont pas chers, ces gens-là, et il y en a qui travaillent très bien. Donc c'est sûr que face à un Indien qui travaille très bien ou un Marocain qui travaille très bien, aller justifier que nous, on demande le double, c'est compliqué. Sur Malte, on est plutôt sur des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre française, avec de l'expérience, un peu plus qualitative. Ça correspond un peu mieux à mon profil, et du coup, ben moi j'ai beaucoup de succès sur Malte, et depuis le début de l'année 2021, ben c'est le cœur de mon activité, je propose des services, mes services de développement, principalement React et Node, en freelance, donc j'ai fait 4 missions je crois, jusqu'à maintenant, voilà, et je vais continuer de faire ça pendant un certain temps, le temps de me libérer, le temps d'accumuler assez d'argent pour pouvoir me faire des parenthèses. Mon but, c'est ça, c'est de me faire des parenthèses d'un mois ou deux de temps en temps pour recharbonner sur mes propres projets, puisque je perds pas l'objectif et j'ai pas baissé les bras. Recharbonner sur mes propres projets pour créer des systèmes qui marchent, créer des logiciels SaaS qui puissent tourner de manière automatique sans moi pour me créer ma liberté ultime.
Ok. Top, super, bah écoute, je pense que ça fait une bonne conclusion à cet épisode. Très intéressant d'avoir eu ton parcours comme ça, d'un profil qui a commencé par travailler en entreprise, pour ensuite se lancer en freelance après un déclic, mais enfin pour ensuite se lancer dans l'entrepreneuriat à travers à la fois le freelance et la création de projets personnels. Donc très très intéressant et surtout, en tout cas merci d'avoir partagé cette anecdote un peu que t'aurais bien aimé ne pas avoir à raconter, hein, de cette arnaque. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que on peut souvent et facilement se dire tout est beau, tout est rose quand on est en freelance, mais il faut aussi penser à tout ça et en être conscient, et justement pour se dire si jamais ça m'arrive à moi, bah c'est pas très grave. Réussir à relativiser, essayer de trouver des solutions et ne pas s'arrêter à ça, parce que justement bah c'est un peu cette image du gars qui va creuser, qui va creuser, qui va creuser, qui va rien trouver, qui va voir le gars creuser à côté trouver une pépite d'or. Mais si ça se trouve, lui, s'il avait continué à creuser 10 cm plus profond, il aurait trouvé, je sais pas, un gisement de pétrole ou autre chose, quoi. Donc, en tout cas, merci pour ton partage.
Merci à toi pour l'invitation.
Avec grand plaisir, et c'était un peu logique de t'inviter en tant que formateur de la plateforme sur le podcast. Et j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu aurais une ressource à partager aux auditeurs? Alors, comme je t'ai dit avant d'enregistrer, hein, une ressource, ça peut être un livre, un site web, une série, un film, une application, un podcast ou même une personne qui t'a inspiré et que tu aimerais partager avec les auditeurs du podcast.
Alors, du coup, je vais prendre un angle un peu plus web marketing, puisqu'effectivement, il y a un bouquin particulièrement où, quand je l'ai ouvert et quand je l'ai lu, j'ai dit « Waouh, c'est quoi ce truc ?» C'est un livre qui s'appelle « Dotcom Secrets ». Donc, c'est en anglais, c'est un livre de Russell Brunson. Russell Brunson, c'est celui qui a fondé la plateforme ClickFunnels. C'est la plateforme leader mondiale en ce qui concerne les tunnels de vente. Et pour ceux qui ne savent pas, un tunnel de vente, c'est l'art de créer un site web totalement focalisé sur la conversion et la vente. Et donc dans ce livre, Dotcom Secrets, il explique toutes les techniques qui permettent de créer un vrai tunnel de vente. Comment capturer des adresses mail, comment faire des upsells, comment faire des bump orders, tout ça, ça vous parle peut-être pas à ceux qui connaissent pas le sujet, mais c'est vraiment comment décupler ces ventes en ligne. Et si je dois citer un livre où vraiment j'ai fait waouh tout le long, c'est celui-ci, vraiment hyper intéressant.
Ok, top. Bah j'appuie ce choix parce que je suis justement en train de lire ce bouquin, bah d'après ta recommandation, hein, Vincent. Et c'est vrai que pour l'instant, je suis très 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 satisfait de mon achat, ça c'est sûr. Top. Bah en tout cas, merci encore à toi pour ton temps, merci pour ton partage. Et c'est vrai qu'on aurait pu encore discuter pendant très longtemps durant cet épisode. En tout cas, merci vraiment à toi. Je mets tous les liens de ce dont tu nous as parlé, de tes ressources et des projets que tu as développés à titre personnel dans les notes de cet épisode. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour et à regarder un peu tout ce que Vincent a créé. Et sur ce, ben Vincent, je te dis encore un grand merci et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
Merci à toi, ciao.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le développement web et plus particulièrement le React vous intéresse, on vous offre une réduction de 100€ sur la formation « Devenir un pro du React » qui est donc disponible sur notre site et qui vous permettra de lancer votre carrière en tant que développeur web aussi bien en freelance que dans la boîte de vos rêves. Donc pour profiter de cette offre, vous pouvez tout simplement cliquer sur le premier lien qui est dans les notes de cet épisode et vous aurez directement accès à toute la formation dans votre espace membre sans aucune limite de temps. Merci encore pour votre écoute et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.